Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Le 9 décembre dernier, une crèche était inaugurée au Parlement européen à Bruxelles en présence d'un député italien d'extrême droite et de deux représentants d'organisations religieuses ultra-conservatrices. Un événement qui a fait bondir les organisations laïques regroupées au sein de la Fédération humaniste européenne, la FHE, dont nous recevons aujourd'hui deux représentantes, Julie Pernet et Aurélie Vielchouda. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer ensemble cette événement. Je vous propose tout d'abord d'écouter quelques extraits sonores des interventions enregistrées à l'occasion de l'inauguration de cette crèche. Nous entendrons dans l'ordre Mario Borghesio, député européen de la Ligue du Nord, parti italien d'extrême droite, Alain Escada, président de l'organisation catholique ultra-conservatrice Civitas, et enfin Bernard Fellay de la fraternité sacerdotale Sainte Pidis. Vous nous en direz un petit peu plus au sujet de ces trois personnages juste après les avoir écoutés.
Je remercie beaucoup les assistants et les fonctionnaires qui ont voulu aider cette initiative qui est désormais traditionnelle. Je remercie beaucoup les députés européens qui ont fait l'honneur de participer à cette exceptionnelle manifestation qui n'est pas seulement une manifestation d'esprit religieux, mais encore une manifestation de fidélité à notre tradition chrétienne.
En France, en Italie aussi, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, il y a de plus en plus une polémique autour de la crèche de Noël au nom de la laïcité et de la neutralité religieuse. L'on cherche à mettre le christianisme au placard et la crèche de Noël est devenue, c'est extraordinaire, un emblème de la résistance chrétienne contre l'antichristianisme.
Bénir une crèche au Parlement européen a évidemment toute sa signification. L'Europe est chrétienne, un point c'est tout. C'est pas seulement ses racines, c'est encore sa vie. Et si elle l'oublie, eh bien le bon Dieu le rappellera. Si l'Église, si l'Europe aujourd'hui est ce qu'elle est, si la France, peu importe les pays que vous voulez, sont ce qu'ils sont, c'est bien grâce à notre Seigneur et grâce à toutes les conséquences de la nativité. Et il faut avoir au moins le minimum, même si aujourd'hui ils sont athées et tout ce qu'on veut, de le reconnaître. C'est une question d'honnêteté. Et donc, commençons par là.
Aurélie Vielchouda, on vient d'entendre dans l'ordre Mario Borghesio, Alain Escada, Bernard Fellay. De qui s'agit-il exactement ?
Bernard Fellay, c'est le supérieur général de la fraternité sacerdotale de Saint Pidis. Donc, ils ont été excommuniés en 1988.
Ce sont ceux qu'on appelait les lefévristes à l'époque.
C'est ça. Et en fait, ils ont en 2009, Benoît XVI a levé l'excommunication, mais il n'y a pas eu de retour dans l'Église parce qu'ils n'ont toujours pas reconnu l'autorité du pape ni du Concile Vatican II, donc de la fin de la messe en latin, de la reconnaissance de la laïcité et de la démocratie, enfin de la laïcité dans une certaine mesure et de la démocratie. Et donc Saint Pidis a des liens notoires avec l'extrême droite en France et en Belgique et se revendique en fait des États autoritaires théocratiques de type Pétain en France ou Franco en Espagne à l'époque. La deuxième personne à parler, c'était Alain Escada, le président de l'association catholique traditionnaliste Civitas.
Il est belge par ailleurs, non ?
Qui est belge, qui était un militant d'extrême droite du Front National belge et qui milite maintenant pour la recristianisation de la France. Et donc, ils sont très proches de la fraternité de Saint-Pédis.
Est-ce qu'ils sont aussi fort présents dans ce qu'on appelle le mouvement Mariage pour tous en France ? Est-ce qu'on les a vus notamment Civitas dans toutes ces manifestations ?
Oui, ils s'opposent aussi. Ils sont très connus aussi pour leurs actions contre certaines œuvres d'art, contre certaines pièces de théâtre.
Qu'ils jugent blasphématoires et alors ils se rassemblent à l'entrée des théâtres pour essayer de perturber le déroulement des spectacles. C'est donc
voilà. Et ils ont été invités donc par le député européen Mario Borghesio de la Ligue du Nord, qui a été expulsé du groupe eurosceptique pour racisme suite à ses propos sur la ministre italienne Cécile Kenge.
Vous pouvez nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit ?
Donc, oui, en fait, il a dit qu'elle n'avait pas sa place au gouvernement.
C'est donc une ministre italienne, mais d'origine congolaise, si je ne m'abuse.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait deux choses. C'est qu'elle avait le tort d'être noire et d'être femme en plus. Donc, en gros, il a fait à l'Assemblée, publiquement en Italie, il lui a demandé de rentrer dans sa cuisine.
Dans sa cuisine.
Voilà.
Ça mérite d'être clair.
Et ceci dit, c'est pas le meilleur de ses faits d'armes. Il a été condamné en 92 pour violence contre un clandestin marocain de 12 ans. qu'il a livré à la police après l'avoir tabassé, en gros. Il a recommencé en 2005 en mettant le feu à des palettes de bois sur lesquelles dormaient des réfugiés. Et comme l'a dit, il a été condamné pour le génocide de 8000 musulmans. Il a fait une apparition publique pour le qualifier de vrai patriote et le féliciter de son action, en gros. Et donc, en gros, lui, c'est très clair qu'il se revendique du fascisme et du racisme au sens premier, c'est-à-dire que pour lui, il y a des races qui ne sont pas égales.
Donc, si on résume tout ça, Mario Borghezio, Alain Ascada, Bernard Fellay, est-ce qu'on peut dire qu'on a là affaire à trois personnages de la mouvance d'extrême droite?
Oui, c'est ce qu'on peut appeler l'extrême droite catholique ou la droite nationale catholique. Donc, ils sont souvent nostalgiques de ce qu'ils appellent un catholicisme pur, donc avant Vatican II, et des États théocratiques et fascistes.
Alors, Julie Pernet, comment cet événement, cette inauguration et l'installation de cette crèche au sein même du Parlement européen par trois personnages, qui sont trois personnages, on vient de nous le dire, d'extrême droite, a-t-elle été possible?
Alors, tout d'abord, la crèche au sein du Parlement européen a été... La crèche en tant qu'exposition temporaire a été en fait validée par les questeurs du Parlement européen, donc par le service des expositions. Donc il y a eu vraiment consensus au sein des questeurs pour que l'exposition ait lieu. Et puis ensuite, pour l'apparition et puis la prise de parole de ces personnes, ben voilà, il leur suffisait en fait d'être invités par un député européen, ce qui leur a permis d'avoir une accréditation, donc un accès au Parlement européen, une petite tribune mise comme ça sur place. Et puis il n'y avait pas franchement de vérification par rapport effectivement... à leur organisation, à leur prise de parole. Il existe quelques règles, effectivement, en ce sens, Parlement européen, au sujet du thème, des conférences, etc. Mais dans la mise en pratique, effectivement, c'est un peu plus flou. Donc tout ça a été fait assez légalement, je dois dire.
Donc il n'y a pas vraiment eu de hold-up, mais simplement on a suivi une procédure suffisamment floue pour que ces trois personnages puissent s'y engouffrer. Et tout ça, on peut le supposer, à l'initiative du député en question, à savoir Mario Borghezio.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'on peut, de cet exemple, tirer la conclusion que la présence de lobbies ou d'associations religieuses d'extrême droite, ultra-conservatrices, au sein du Parlement européen est devenue un peu la norme, est devenue quelque chose d'habituel aujourd'hui?
Alors, elles sont actives depuis un certain nombre d'années, mais on s'aperçoit vraiment que depuis assez récemment, on assiste vraiment à une professionnalisation de ces organisations. Donc, c'est-à-dire qu'elles se présentent... Bon, il y en a toujours, évidemment, qui sont toujours très extrémistes et qui ne tentent pas de le cacher. Mais en tout cas, il y a quand même une série d'organisations qui, maintenant, se présentent avec un discours bien policé, qui ne parle plus du tout de religion, qui ne parle plus du tout d'éthique auprès des députés européens, mais qui ont plutôt un argumentaire scientifique, légal, et qui ont des sites web très neutres. Je vous invite à ce sujet à aller voir le site web de l'Institut européen de bioéthique, qui est donc une organisation anti-choix, pro-vie, comme on aime dire. Ça dépend un peu des chapelles, j'oserais dire.
Donc on dit nous anti-choix plutôt.
on dit anti-choix. Mais... Donc voilà, donc des organisations qui se présentent vraiment avec une façade très droit de l'homiste, qui ont aussi récupéré des concepts des droits de l'homme, comme la non-discrimination, comme la liberté religieuse, comme la dignité, comme le droit à la vie, etc. Mais organisations qui reçoivent des financements des évangélistes américains, du Vatican, ou encore des orthodoxes russes, ce qui leur permet aussi d'avoir un personnel de plus en plus qualifiés, d'un personnel formé, voilà, des experts scientifiques, des journalistes, des avocats, etc.
Donc ils sont très actifs, mais est-ce qu'ils sont influents pour autant ?
Alors, ça, c'est toujours un peu le débat. Ils ne sont pas influents sur tous les dossiers, sur tous les textes. C'est leur déguisement, j'oserais dire, peut effectivement fonctionner auprès de certains députés. C'est-à-dire que certains députés qui ne partagent pas leur identi-choix se font un peu berner, finalement, par leur argumentaire, par leur propagande, etc. Et donc, je pense qu'il y a vraiment besoin de faire un travail de pédagogie auprès des décideurs politiques pour effectivement un peu révéler qui sont vraiment ces organisations. Donc, pour moi, le danger vraiment réside plutôt dans leur capacité, dans leur potentialité d'influence.
Aurélie Vielchouda, on entend bien qu'il y a peut-être des députés européens qui peuvent se faire berner par ces personnages qui avancent masqués, mais il y a aussi des députés européens qui le font de leur plein gré. Alors, est-ce qu'on a une idée de qui sont réellement les relais de ces organisations, de ces lobbies ultra-conservateurs et d'extrême droite au sein du Parlement européen ?
Oui, je dirais que chez les catholiques, il y a un petit peu, enfin chez les catholiques au Parlement européen, il y a un peu trois groupes. Il y a le groupe de tradition catholique, on va dire, donc avec le Parti populaire européen, qui ont évidemment une sympathie pour les organisations catholiques, qui après n'ont rien d'extrémiste, n'ont rien de particulièrement problématique, sauf peut-être sur les questions de droits sexuels et reproductifs des femmes, où là ça dépend un petit peu des pays. Sinon, il y a aussi un groupe en fait qui est assez important chez les non-inscrits, qui sont assez importants avec le nouveau Parlement européen, qui instrumentalisent en fait la religion et qui insistent sur les racines chrétiennes comme façon de lutter contre l'islamisation ou comme façon d'appuyer leur autorité, en fait. Enfin, l'idée de retour à un État autoritaire, donc c'est notamment le cas de la Ligue du Nord dont on a parlé avec Mario Borghezi, du Front National en France, du Congrès Nouvelle Droite en Pologne, qui par exemple s'appuie sur la religion pour militer contre le droit de vote des femmes.
Le droit de vote des femmes, donc on en est là.
Le leader Janusz Korwin-Mikke a effectivement dit que dans la mesure où... Enfin, que ce n'était pas dans la nature des femmes de faire de la politique et que donc... pouvaient mettre en question leur droit de vote. Voilà, donc ça, mais je dirais que c'est plus une instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Et il y a un troisième groupe qui est assez restreint, mais qui du coup est très actif sur les questions de religion, qui sont des députés engagés avant tout dans le christianisme. Donc on les retrouve notamment au sein d'un parti européen qui s'appelle le Mouvement politique chrétien européen, qui a 5 députés, mais très très actifs et des sympathisants... qui en fait estiment, enfin, dans le manifeste du parti, ils disent par exemple que les valeurs européennes sont inséparables de la personne de Jésus-Christ, qui rejettent la laïcité, qui sont créationnistes pour la protection de la vie, de la conception à la mort naturelle, contre le féminisme, et ce qu'ils appellent l'homosexualisme, qui serait...
L'homosexualisme.
Voilà. Donc l'idée d'un lobby gay.
Un isme de plus.
Voilà. Donc eux ont... On sont assez peu nombreux, je dirais une quinzaine de députés sympathisants. Par contre, ils ont du pouvoir, ils sont au Parlement, ils ont des liens dans le Parlement, ils peuvent faire passer des amendements, donc c'est vrai qu'ils sont...
Et ils ont forcément un financement public.
Voilà.
Bien. Judy Pernet, quand on entend les extraits qui viennent d'être cités de certaines prises de position de ces groupes, de ces groupuscules, on comprend pourquoi il est nécessaire que les laïcs s'allient au niveau européen pour faire front ou pour s'opposer et puis pour aussi faire des propositions constructives qui vont dans l'autre sens. Et c'est notamment ce que fait la Fédération humaniste européenne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pouvez-vous en quelques mots rappeler ce qu'est la FHE ?
Voilà, donc la FHE, en fait, c'est le principal représentant des organisations humanistes et laïques en Europe. On a plus de 50 organisations quasiment dans tous les pays européens. Y compris en Russie d'ailleurs. Et donc c'est une organisation, une fédération qui promeut la laïcité au niveau européen, ce qui implique aussi de travailler pour promouvoir la neutralité des institutions européennes. Mais concrètement, c'est vrai qu'on travaille beaucoup auprès des institutions européennes, mais aussi du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, ou aussi de l'ONU, puisqu'on vient d'avoir, le statut consultatif, pour défendre des positions progressistes sur les droits des femmes, sur le droit... les personnes lesbiennes, gays, bi ou trans, sur les droits des non-croyants, pour la liberté de la recherche, etc. Et donc ce travail que je qualifierais de progressiste finalement implique aussi de contrer le travail de ces organisations anti-choix.
Vous avez quelques exemples à nous citer ?
Oui, alors il y en a eu beaucoup ces dernières années. Un exemple assez marquant est la pétition donc One of Us, un de nous en français. Donc c'est une pétition en fait qui a été initiée par une organisation anti-choix italienne, soutenue par le pape, par les deux papes même.
Le précédent et celui-ci.
Et donc qui voulait en fait imposer la protection de l'embryon humain en Europe. Et donc,
assimiler quoi, l'embryon à une personne, c'est ça ?
Tout à fait, voilà. L'embryon est un de nous, d'où le nom de la pétition d'ailleurs. Et donc, sans rentrer vraiment dans les détails, ils ont quand même réussi, via l'appui de la hiérarchie catholique, via l'appui des groupes anti-choix locaux, la Manif pour tous, etc., en France, à réunir quasiment 2 millions de signatures qui ont été validées par la Commission européenne. et donc qui leur a permis de présenter officiellement leur demande au Parlement européen. Donc nous, la FHE, ce qu'on a fait, en fait, c'est vraiment un travail de fond pour identifier quelles étaient les organisations, uniquement des organisations très religieuses, uniquement des organisations anti-choix, qui ont vraiment utilisé, on ne peut pas dire autrement que de la propagande pour essayer de récupérer les signatures. Et donc vraiment, on a fait un travail de fond déjà, effectivement, pour identifier le mode opératoire de cette organisation, etc. Et puis, nous sommes allés voir les députés pour leur expliquer... Ne vous laissez pas berner. Voilà ce que veulent vraiment ces organisations. Voilà qui ils sont. Voilà d'où viennent leurs financements. On a fait ce même genre, effectivement, de briefing auprès des médias. On a organisé une conférence de presse, etc. Et voilà, donc au final, il y a eu une mobilisation des députés progressistes pour s'opposer, effectivement, à ce que l'Union européenne donne suite à ce genre de, pétition.
Et qu'est-il advenu en fin de compte ?
Alors, effectivement, la Commission européenne a décidé qu'elle ne donnerait pas suite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment, puisqu'ils sont quand même coriaces. Et donc, les voilà maintenant partis, je dirais, devant la Cour de justice européenne pour demander l'annulation de la Commission européenne, puisqu'ils estiment ne pas avoir été entendus par la Commission européenne.
Bref, le combat de la FHE continue sur ce dossier, on l'imagine. Il nous reste plus ou moins 2 minutes pour terminer cette partie ici de l'émission. Aurélie Vielschuda, on vient d'entendre Julie Pernet nous a cité une série d'exemples sur lesquels la Fédération humaniste européenne était active. Y en a-t-il d'autres ?
Un des gros projets qu'on mène en ce moment, en fait, c'est à la suite d'une rencontre à l'OSCE. En fait, tous les ans, il y a une rencontre des ONG avec les représentants...
Donc, OSCE, Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe.
Voilà. Qui, tous les ans, organise une rencontre avec des ONG et les représentants des États, donc auprès de l'OSCE, sur des sujets précis dans le cadre de Working Group. Et donc la FHE était présente, le CAL aussi d'ailleurs, et on a demandé...
Mais rappelons évidemment que le CAL fait partie intégrante de la Fédération humaniste européenne.
Oui, et en fait on a demandé donc, sur certains sujets le respect des restrictions à la liberté religieuse, parce que souvent dans ces groupes il y a une demande en fait de liberté, de pratique religieuse totale, ce qui n'est pas du tout l'idée de la liberté religieuse. Donc, par exemple, une demande de pouvoir au nom de la religion discriminée, ce qui est une demande qui n'est pas formulée comme ça, mais qui est l'idée de base. Et on a été en fait très choqués par le nombre d'associations extrémistes ou fondamentalistes qui ont leurs entrées à l'OSCE, qui sont très nombreux, qui sont très bien financés, qui organisent des side events. Et donc, on a voulu en savoir plus sur qui étaient ces groupes et leur sphère d'influence. Et donc là, on a mené une recherche sur les organisations qui font du lobby contre les droits de l'homme, et notamment qui s'opposent aux droits des femmes et qui sont homophobes, parce que c'est souvent les critères qu'ils osent afficher, en tout cas. Et on a fait une liste de 46 organisations, dont 38 ont un statut légal et plusieurs sont accréditées au Parlement européen.
Eh bien, je vous propose, si vous le voulez bien, de vous inviter peut-être prochainement dans une autre émission Libre Ensemble pour aller un peu plus au fond des choses concernant cette recherche que vous avez menée. C'est un sujet, on l'entend, qui est non seulement important parce qu'il influence le cours des choses au niveau européen, et on sait aussi que c'est en Europe que se décident aujourd'hui la plupart des décisions qui nous concernent. Julie Pernet, Aurélie Vielschuda, merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé au sujet de cette actualité. Et vous êtes évidemment les bienvenus quand vous voulez. Voilà, je vous propose à présent de faire une petite pause musicale avec un morceau qui sent bon la lumière, un air de circonstance en cette période de solstice d'hiver.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I little darling, the smiles are returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. Here comes the sun.
Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, nous écoutions une reprise de Here Comes the Sun, morceau des Beatles écrit par George Harrison et repris ici par Nina Simone. C'était en 1971. Sans transition, comme on dit, je vous propose maintenant de revenir sur un événement qui s'est déroulé le 9 décembre dernier à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Curieux hasard, c'était donc le même jour que l'inauguration de cette crèche au Parlement européen dont nous venons de parler juste avant notre pause musicale. Mais après avoir évoqué l'ombre des mouvements intégristes qui planent sur l'Europe, abordons maintenant une information plus lubineuse, puisqu'il s'agit de la remise du prix international de la Fondation Henri Lafontaine, un prix attribué cette année à Cartooning for Peace, une association créée par Plantu, le caricaturiste du journal Le Monde, et présidée par Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies. Une association qui regroupe des dizaines de caricaturistes issus des quatre coins de la planète et qui s'est vue récompensée par ce prix international Henri Lafontaine pour son travail en faveur de la paix dans le monde et de la liberté de la presse. Une de nos équipes était présente lors de cette cérémonie à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Elle a pu recueillir ces quelques réactions que je vous propose d'écouter. Jean Plantu, votre nom est associé à celui du journal Le Monde, dont vous êtes un des caricaturistes, le caricaturiste le plus célèbre. Vous êtes aussi le fondateur de cette association Cartooning for Peace. Pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue cette idée de créer cette association ?
Alors, on l'a créé en 2006 avec Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU. Et donc, on s'est dit avec Kofi Annan, on va essayer de s'organiser, nous, avec les dessinateurs de presse, chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, essayer de voir comment on peut contourner toutes les formes d'interdits qui nous tombent dessus aujourd'hui. Et en fait, ça marche plutôt bien. Et Cartooning for Peace est la réponse à ces différents interdits. C'est-à-dire qu'on ne baisse surtout pas la garde. On continue à être toxique, on continue à être énervant, on continue à être dérangeant, on continue à être le poil à gratter de tous les pouvoirs, la classe politique, la classe religieuse, on s'en fout. Je veux dire, pourvu qu'au bout du compte, on n'humilie pas inutilement les croyants.
Pierre Kroll, vous êtes membre de Cartooning for Peace.
J'étais parmi les premiers à qui Plantu a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de venir avec moi à New York, à Jérusalem, à Tunis, rencontrer des dessinateurs américains, tunisiens, israéliens, etc. » Et puis alors, ça a grandi, et à force de tisser ce réseau, on est maintenant 140, je crois 150 dessinateurs. Il n'y a pas le but d'être 10 000 non plus, c'est assez informel. Et à la fois, c'est quelque chose de sérieux, puisque c'est quand même parrainé par les Nations Unies et que ça reçoit des prix comme aujourd'hui.
Parce que ça sert à quelque chose à part recevoir des prix ?
Oui, bien sûr. Et on a d'ailleurs, chacun qui en est membre trouve parfois des utilités un petit peu différentes. On nous met souvent, parce qu'elle est très importante, l'aide qu'on peut apporter à des dessinateurs qui sont persécutés dans leur pays, parce qu'il y a des pays où on ne fait pas aussi, les choses aussi librement évidemment qu'en Belgique, et soit, bon, c'est pas encore vraiment pour leur trouver de l'argent pour payer leur procès, mais en tout cas leur permettre d'habiter ailleurs un moment, et simplement les faire connaître ailleurs dans le monde. Il y a un dessinateur syrien qui s'est fait tabasser là par le régime il y a déjà 2 ans, il vit maintenant dans les Émirats, Ali Ferzat, son nom n'était pas connu, il a fait le tour de la Terre, son donc grâce à nous. Il y a un dessinateur algérien, Ali Dilem, Khalid Guédard, un dessinateur marocain qui a eu le malheur de dessiner un membre de la famille royale, 5 ans de prison avec sursis. Un dessinateur qu'on a fait sortir de prison en Iran, enfin on a fait avec Amnesty International et avec, vous savez comment on fait agir ce genre de choses. Et donc le caricaturiste, parfois le régime, les régimes qui ne les aiment pas, se disaient c'est bien les derniers que quelqu'un va aller sortir de prison. Quoi. C'est un mec qui fait des petits dessins et celui-là on va le faire oublier à tout le monde. Ben, pas de chance, nous on est là pour qu'on n'oublie pas ces gens-là.
De plus en plus, des dessinateurs de presse du monde entier me disent cette phrase, en Tunisie, en Russie, dans le Proche-Orient. Le mot « garde du corps », c'est un mot qui est associé, ou quand je vais à Copenhague et que je vois mes amis dessinateurs danois, il y a des dessinateurs qui aussi sont accompagnés de policiers avec des petites oreillettes qui dépassent de l'oreille. Et puis, ça, il faut... Ce qui arrive aux dessinateurs de presse, ça arrivera après à tous les journalistes et après ça arrivera à tous les citoyens du monde. Ce qui fait que les dessinateurs de presse sont un peu les vigies, sont aux avant-postes de ce qui fait que la liberté, elle est bafouée aujourd'hui.
Jean-Paul Barras, vous êtes le président de la Fondation Henri Lafontaine qui vient d'octroyer aujourd'hui ce prix à Cartooning for Peace. Pourquoi justement accorder à Cartooning for Peace ce prix ?
Eh bien, parce que nous essayons effectivement de décerner le prix dans l'esprit évidemment de La Fontaine, c'est-à-dire l'humanisme, le féminisme, le libre examen. Et nous avons décidé dans les 14 dossiers que nous avions reçus que celui-ci correspondait le mieux à cette année, aux objectifs que défendait Henri Lafontaine, évidemment le grand militant du pacifisme. Et nous voulions montrer que par la caricature, par le dessin de presse, il était possible également de propager les idées du pacifisme.
Dans votre discours, vous avez également rappelé à quel point il était important aujourd'hui de préserver la liberté de la presse parce qu'elle n'est pas uniquement menacée dans la dictature, mais également ici, en démocratie. Certains nuages sombres s'amoncellent au-dessus de notre tête.
Oui, absolument. Et pas uniquement ici non plus en Belgique. Mais l'Union européenne doit quand même faire très attention parce qu'effectivement, beaucoup de signes sont assez négatifs sur ce plan-là. Et c'est très facile de croire qu'on décapite des journalistes en Irak. Et du coup, chez nous, évidemment, on n'en est pas à des manœuvres aussi horribles. Mais il ne faut pas pour autant se désintéresser du sort des journalistes. Ce sont des passeurs, des transmetteurs, des gens qui font savoir les choses. Et tous les journalistes dérange toujours les gens de pouvoir.
Et c'est-à-dire que les caricaturistes sont assimilables à des journalistes, selon vous ?
Oui, pour moi, absolument. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle aussi, d'ailleurs, on les a retrouvés dans le prix La Fontaine, parce que La Fontaine croyait à la paix par la diffusion du savoir. Ici, nous ne sommes pas dans le savoir, mais nous sommes dans le faire savoir. Et c'est une tâche à risque qu'il faut absolument souligner.
Voilà. C'est ici que se referme cette édition de Libre Ensemble, après ce reportage sur l'attribution du prix Henri Lafontaine à l'association Cartoonist for Peace. La semaine prochaine, vous retrouverez Pilar Arcas au micro et aux commandes de ce programme. En attendant, je vous souhaite très sincèrement de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et au nom de toute l'équipe de Libre Ensemble, je vous souhaite, avec un peu d'avance, une très très bonne année 2015. Merci encore pour votre fidélité et au plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir.